apprendre comment se battre dans les combats et apprendre comment les gagner. C'est ce que nous verrons dans les deux chapitres que j'aimerais regarder avec vous. Je voudrais survoler le chapitre 2 de Juges et puis ensuite regarder le chapitre 3. Dans l'introduction que j'aimerais faire ce matin, l'histoire se passe donc dans l'Ancien Testament. C'est après que l'Éternel Dieu, utilisant son serviteur Moïse, a guidé son peuple et délivré son peuple de la main puissante de Pharaon, la main puissante de l'Égypte. L'Égypte, c'est ce qui représente ce monde, l'Égypte qui représente son attrait, mais surtout la capacité qu'a ce monde à nous rendre esclaves. Puis, après la délivrance, les 40 ans de désert, le désert, c'est un lieu sans piste, c'est un lieu sans route. Le désert, ça nous oblige à nous laisser guider par Dieu, à être dépendant de lui. Quand on ne sait où aller, quand on ne sait quoi faire, quand on se sent perdu, on doit revenir aux pieds de Jésus. Mais le désert, c'est aussi un temps fort d'apprentissage. D'apprentissage à la recherche de la volonté de Dieu. Jérémie 29, 14 nous dit « Je me laisserai trouver par vous ». Dieu ne nous laisse pas dans notre désert seul. Il attend qu'on vienne à lui et il se laisse trouver. Dans Juges chapitre 2, il est question de l'Éternel, pardon, l'envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bakim, Juges chapitre 2, verset 1, et dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. » Et vous n'avez point obéi. Gilgal signifie l'action de rouler. Gilgal, c'est ce lieu où les Israélites ont établi leur premier campement après être sortis d'Égypte, après avoir traversé le désert. Il est dit dans Josué 5, Dieu a enlevé l'opprobre d'Égypte. Dieu a fait rouler au-dessus d'eux cette opprobre. Dieu les a délivrés et les a amenés jusqu'à Gilgal. Et la désobéissance de ce peuple les a amenés à Bokim. Notre désobéissance, nous amène à la vallée des pleurs, des lamentations. C'est aussi là que Dieu vient nous chercher. Il est dit, puisque c'est l'ange de l'Éternel, ici, c'est en fait tout simplement Jésus. Jésus qui vient voir son peuple avant sa naissance. Et Dieu va faire une chose, il ne va plus chasser les nations qui étaient dans le pays. Il ne va plus prendre sa main puissante pour éloigner les ennemis d'Israël. Alors, le peuple, au verset 7 de Josué 2, « Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Josué meurt à 110 ans et ce peuple va servir Dieu pendant toute la vie de Josué. Mais une nouvelle génération va arriver. Une nouvelle génération qui, elle, ne connaît pas Dieu. Il est dit au verset 10 de Josué 2, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Le peuple de Dieu, qui porte le nom de peuple de Dieu, mais qui ne connaît pas l'Éternel, qui ne connaît pas l'Éternel sans doute parce qu'il n'y a pas eu de transmission, sans doute parce que les pères n'ont rien transmis à leurs enfants, sans doute parce que les œuvres de l'Éternel n'ont pas été annoncées. C'est pourtant une de nos responsabilités. Il est dit dans Deutéronome 11, verset 19, « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » En tout temps, la Bible nous apprend que nous devons transmettre, enseigner à nos enfants, enseigner dans notre maison ce que l'Éternel a fait, de peur qu'une génération se lève, une génération qui ne connaît pas Dieu, qui porte son nom, mais qui ne savent pas ni ce qu'il est, ni ce qu'il est capable de faire. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Au chapitre 2, verset 11. Et ils servirent les Baals, des divinités. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés, les fausses déesses de la fertilité. Le peuple d'Israël va être, dans le livre des Juges, dans un triste cycle. Chaque fois qu'ils profitent du repos de l'Éternel, chaque fois que les temps sont calmes, propices, la rébellion. Après la rébellion, Dieu doit étendre sa main. Alors, le châtiment arrive, et puis les pleurs, la repentance. Alors, Dieu, entendant leurs pleurs, vient délivrer son peuple. Parce que Dieu, lorsque nous crions à lui, il entend. Alors, Dieu les délivre, Dieu les restaure. Puis, des temps de repos. Et dans ces temps de repos, de nouveau, la rébellion. Et des temps de pleurs. C'est un cycle. Alors, bien sûr, nos souffrances ne sont pas synonymes de péché. On souffre aussi en faisant le bien. Job, Joseph, Jésus. La Bible nous dit, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, qu'en faisant le mal. Mais ici, ils rompent l'alliance avec Dieu. Ils vont voir d'autres dieux. Alors il est dit que l'Éternel va susciter des juges, des libérateurs. Dans Juges 2, verset 17, il nous est dit « Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. » Ils s'en détournent sans aucune hésitation. Ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Alors la main de l'Éternel a été contre eux, partout où ils allaient. Comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. Si tu n'obéis pas. Il est dit dans Deutéronome 28, verset 65, « Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille si tu n'obéis pas. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissantes, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Les conséquences de la désobéissance pour le peuple de Dieu. Alors que si tu obéis, tu seras béni. Deutéronome 28 nous dit, verset 3, « Si tu obéis, tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans tes champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. » Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes tes choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Et je fais la partie courte. Il y a tellement de bénédictions à l'obéissance. Quand Dieu nous bénit, nous avons toujours conscience que c'est lui qui le fait. Sans doute pas. C'est toujours Dieu qui le fait. On a parfois l'impression, parce que nous mettons notre action, nous agissons, nous réfléchissons, nous nous battons, nous réfléchissons à comment faire que ces choses viennent de nous. Mais c'est Dieu qui bénit son peuple. C'est Dieu qui permet que nos actions portent la bénédiction. Tout est grâce de Dieu. Mais ils prennent à la légère la parole de Dieu. Ces avertissements, pourtant clairs, mais oui, il nous faut les repasser. Il nous faut les enseigner. Alors, Juges chapitre 2 le dit, verset 21, « Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, il ne se hâta point de les chasser. Savoir s'ils prendront garde, comme leur père y ont pris garde. Comment leur père y ont pris garde ? Au verset 17, on voit « Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Les pères ne suivaient pas parfaitement non plus. Au verset 19, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, nous dit la Bible. Les pères se corrompaient, mais eux se corrompent encore plus. En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Quelque chose de constant. Ils font comme leur père, mais en pire. Ils désobéissent, ils se corrompent avec d'autres dieux. Les pères ont balisé un chemin pour les fils, et les fils y ont été en courant. Quel héritage spirituel nous laissons en tant que parents ? Parents de sang ou parents spirituels ? Il y a forcément un héritage. On peut transmettre une obéissance partielle. Faites, oui, de belles actions extérieures, de présence aux réunions. Enseignez le religieux plutôt que la relation. Je peux servir le dimanche, je peux même prêcher devant vous, tout en négligeant ses commandements quand je suis seul. On peut, comme le dit le texte, enseigner aux autres à ne pas prendre garde à la parole de Dieu, au commandement, en la négligeant soi-même, en ne l'honorant pas, en ne l'enseignant pas, en ne la vivant pas. Si je ne lis jamais ma Bible avec mes enfants, mais que je regarde la télé avec eux, quel enseignement je laisse ? Si je ne prie jamais avec eux. Alors, est-ce que vraiment je connais Dieu ? Et les enfants devenus grands doivent vérifier si ce qui leur a été enseigné est juste et véritable, si c'est la parole de Dieu ou si c'est, à la manière de Caïn, une religion que j'ai créée. En y mettant ce qui m'y plaît, en mettant de côté ce qui me déplaît, et si nous ne vivons pas dans les directives de Dieu, nous allons décliner. Un autre Dieu peut facilement prendre la place. Alors l'Éternel mit Israël à l'épreuve. On a vu, non, je vais lire déjà le chapitre 3, versets 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ce qu'ils n'avaient pas connu auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamaz. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Ça fait du monde, hein. Ils prirent leur fille pour femme, ils donnèrent à leur fils leur propre fille, et ils servirent leur Dieu. On a vu que dans le chapitre 2 de Juges, ce peuple ne connaît ni Dieu, ni ses œuvres. Alors Dieu, à cause de leurs péchés, alliance qu'ils ont rompue, eux, mais grâce à sa miséricorde, laisse des ennemis pour les éprouver, pour les examiner. Le croyant lui-même est appelé à s'éprouver lui-même. Quand Dieu nous éprouve, il n'y a aucune méchanceté. Dieu nous éprouve pour que nous puissions nous-mêmes nous remettre en question. Dieu veut et va au travers de la guerre se révéler. On a parlé ce matin d'un Dieu qui se révèle. Dieu va se révéler à eux qui ne connaissent ni Dieu, ni ses exploits passés. Dieu va se faire connaître par des actions présentes et leur apprendre comment gagner des victoires. Leur obliger au travers des épreuves, à prendre ou non une position. Dieu va leur donner l'opportunité de briser ce cycle constant de rejet de Dieu. Des larmes, des délivrances, puis une fois délivrés, dans le repos, de nouveau, l'infidélité. Ce repos qui nous cause visiblement du tort, au lieu d'en profiter de ce repos, de louer Dieu, ils partent dans le péché. Dieu va les éprouver et laisser deux types d'ennemis, deux dangers. Les plus éloignés qui viennent les piller, les opprimer, vous savez, ces ennemis qui nous rendent la vie impossible, où on a besoin de Dieu urgemment à notre secours. Et puis, il y a aussi des ennemis qui sont intérieurs, comme ces peuples qui vivent parmi eux, qui sont un piège plus subtil. Vous savez, ces gens qui nous ressemblent un peu plus, ou alors qu'on tolère plus, qu'on te côtoie. Même si Dieu nous a déjà avertis de nous éloigner, de les chasser de nos vies, alors Dieu laisse au fond ce qu'on ne veut pas chasser. Ils finissent par épouser ces populations et acceptent leur divinité, acceptent ce qu'ils adorent. Après tout, c'est un culte. Dieu, c'est Dieu. Baal, Astarté, pourquoi pas? Le nom est-il vraiment important? Baal, Astarté promet aussi la fécondité, la provision. Oui, le diable imite. Le diable séduit. Ici, plus besoin de résister à ma chair dans ces cultes. On m'encourage même à la débauche. Le menteur va aussi changer le nom. Ah non, c'est pas de la débauche. C'est un culte. C'est un culte que tu rends. Là aussi, dans les ennemis intérieurs, nous avons besoin d'un Dieu qui nous délivre de notre chair. Il est si facile d'écouter ce monde qu'on a fini par côtoyer, s'approcher et puis tomber dans ce piège. Mais Dieu nous traite comme des adultes. Il nous laisse faire des choix. Alors Dieu va envoyer les juges pour libérer Israël. Juges qu'il refuse d'écouter. Je ne sais pas qui sont les juges pour toi. Je ne sais pas qui sont les libérateurs que Dieu envoie. Parfois, pour nous, c'est des grands-parents. Des grands-parents qui prient pour toi et te conseillent. Parfois, c'est des parents. Parfois, c'est l'épouse qui est à côté de toi et que tu refuses d'écouter parce que tu es l'homme de la maison. C'est toi qui décides. Mais elle est ton aide. Dieu l'a mis là pour t'aider. Parfois, c'est un époux qui prie pour sa famille alors que tout le monde dort. Il prie encore. Au travers de ce chapitre, chapitre 3, nous allons effleurer ce que Dieu dit sur la guerre, comment apprendre ce qu'il y a à apprendre. Par la main d'Othniel, le premier des juges. Dans Juges chapitre 3, versets 7 à 11, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishétaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishétaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishétaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishétaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Il est dit ici que l'Esprit de l'Éternel était sur Othniel. D'autres juges ont bénéficié de cet esprit. Gédéon, Samson, pour parler que des juges. Dieu donne ici pour son service quelque chose de surnaturel. J'aurais bien aimé que Dieu le fasse si souvent. Il est dit ici que la main d'Othniel fut puissante contre le roi de Mésopotamie. Avec l'aide de Dieu, la victoire fut complète et la paix fut longue, 40 années. On apprend qu'Othniel a pour oncle un certain Caleb, un homme qui transmit un solide héritage spirituel. Ce même Caleb qui défendit Moïse face à un peuple qui voulait se rebeller. Il est dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Ce même Caleb qui chassa les 3 fils d'Anak, des géants. L'oncle d'Othniel qui fut juge. La Bible précise que cet oncle était quelqu'un qui laissa un héritage. Cela nous rappelle que la transmission spirituelle n'est pas forcément le Père. Si celui-ci est absent, si celui-ci n'est pas là, Dieu met sur notre route, sur notre chemin, des Caleb, des hommes de foi pour nous apprendre la foi. Othniel était rempli de l'esprit. Lorsque nous nous engageons dans des combats, sur quoi nous appuyons-nous pour savoir si Dieu est avec nous? Est-ce que je m'engage juste parce que je pense que c'est bien? Est-ce que je m'engage parce que ça me plaît de faire ça? Est-ce que je suis sûr que lorsque je m'engage dans un combat, l'Éternel est avec moi? Il est dit ici que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Alors oui, c'est vrai, il nous faut réfléchir, il nous faut avoir une stratégie, mais il nous faut demander à Dieu s'il est avec nous. Dans Juges 3, versets 14 à 30, il est dit « Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. » C'est fou la patience de Dieu. Même quand nous répétons les mêmes erreurs, est-ce que Dieu nous le reproche? Dieu permet en partie des conséquences. Et encore, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais j'en étais où? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Quand on crie à l'Éternel, l'Éternel entend, l'Éternel vient, l'Éternel est bon, nous avons un bon Père. Le libérateur s'appelle Ehud, fils de Guéra, benjamite qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, le roi de Moab. Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée. Il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit au roi, « J'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Eglon se leva de son siège. Alors Ehud avança sa main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Oui, la guerre, c'est dur. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne se retira pas du ventre, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Un gaucher. Je ne sais pas, pour maintenant, ça, c'est peut-être moins important. mais on sait que la main gauche, ce n'est pas celle qui était considérée. Que la main gauche, c'est celui aussi qui est différent. Des fois, on se sent différent. On se sent à part. Dieu utilise les gens différents. Dieu utilise les gens à part. Dieu utilise les gens mis sur le côté. Dieu utilise même ceux qui ne sont pas considérés. Ici, Ehud va utiliser une épée d'une coudée. C'est une petite épée. Cela nous rappelle que parfois, tout le temps, la parole de Dieu, même un mot suffit. La parole de Dieu est efficace. Elle est à deux tranchants. Elle est capable de vaincre le monde. Elle est capable de renverser nos ennemis. Même l'opulence de ce monde, la parole de Dieu la vainc. La parole de Dieu la remporte. Armons-nous de la parole de Dieu pour nos combats. Dieu tire gloire du petit. Dieu tire gloire du faible. Alors si parfois nous nous sentons petits, faibles, différents, Dieu nous utilise. Et il sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Il semble que ce terme veut dire qu'il faisait ses besoins. Ils attendirent longtemps. Ils ne voulaient pas le déranger. Et comme ils n'ouvraient pas la porte de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières, se sauva à Séra. Il nous faut être aussi prudents. La guerre nous apprend à être prudents. La guerre nous apprend à ne pas demeurer près de notre ennemi. La guerre nous apprend comment gagner. La guerre nous apprend que nous avons un Dieu efficace si nous le laissons nous utiliser. Je vais terminer par le dernier. Juges chapitre 3. Après lui, Juges chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anas. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Un aiguillon à bœuf, c'est peu de choses. Dieu nous invite à mettre le peu de choses que nous avons à son service. Peu importe ce que nous avons. Dieu nous rappelle parfois qu'un petit temps de prière, un petit temps de lecture, peut-être c'est que ce que nous pouvons faire parfois. Mais le peu de choses que nous confions à Dieu, Dieu nous permet d'avoir des victoires. Ici, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. La victoire appartient à Dieu, pas par nos propres forces. Et c'est parce que c'est ce Dieu puissant en qui chacun de ses juges a confié la mission, a accepté la mission, pardon, que Dieu a donné la victoire. Pour terminer, pardonnez-moi si je suis confus à la fin, Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles. Ne doutons pas de l'amour de Dieu et surtout ne doutons pas que Dieu peut faire. Ayons foi. Recherchons la constance dans notre marche et ne tardons pas à revenir à lui lorsque nous nous éloignons. Amen.